et, comme tout dandy qui se respecte, tient à haute forme dans sa main droite. Il transpire, abondamment. Fiévreux, sur le seuil du grand voyage vers la mort, il se tient au banc conduisant vers la nef pour avancer. Deux de ses amis sont derrière lui. Une moustache finement taillée pour l'un. Une canne soutenant une démarche hésitante pour l'autre. Ses anges gardiens le suivent donc de près. Ils sont aux aguets, prêts à se précipiter sur lui en cas de chute. Mais, comme par magie empreinte de spiritualité, chaque banc passé donne au malade qui s'avance une assurance nouvelle et spirituelle. Au premier, il a déjà le pas plus sûr. Au deuxième, il se redresse. Au troisième, il sourit. En cette fin d'après-midi, peu de temps avant le grand saut vers l'inconnu, Oscar Wilde deviendra un serviteur de Dieu. Il sera catholique, enfin. Toute son existence, un long chemin tortueux, l'a guidé vers ce jour. C'est là l'un des paradoxes les plus insolubles de la vie de l'écrivain. Homosexuel, persécuté, rejeté par les serviteurs de Dieu, emprisonné. Rien ne semblait indiquer que son exil parisien, qui le pousse dans les bras de la faucheuse, soit aussi celui de la conversion au seuil de sa fin de vie. Et pourtant il est là, devant l'autel, attendant les saintes paroles de ce curé victime d'une quinte de toux. Quelques années plus tôt, Oscar Wilde était devenu Sébastien Melmotte, faisant ainsi une sorte de croix sur celui qu'il avait été jusqu'alors. Une tentative de rédemption. Une volonté de gommer un passé qu'il n'aurait pas assumé. Seul lui a la réponse. Ses amis qui sont là s'interrogent sur la trajectoire que prend la fin de vie de cet homme qu'ils aiment. Rien ne présageait d'un tel épilogue à venir. Toute sa vie, il avait été rejeté par cette religion dont il épousait les principes ce soir. Il y a plusieurs années, il s'était exclamé « Je ne suis pas catholique, simplement un papiste violent. » Voilà un bon résumé de cette vie marquée par les contradictions et les retournements de situation. En attendant, une cérémonie doit se tenir. Chassant les doutes et la mélancolie, les deux témoins du baptême, sans mot dire, se prennent la main. En communion, ils acceptent le choix d'Oscar et écoutent les paroles christiques. Bientôt, tout sera terminé. À quelques pas de cette scène émouvante, Oscar Wilde est concentré sur le curé en face de lui. L'homme de Dieu, petit, chétif, semble manquer de se briser les os à chaque respiration et à chaque quinte de toux. Une Bible dans la main gauche, la main droite posée sur l'épaule du dandy désargenté, la cérémonie qu'il mène prend une ampleur que Wilde semble apprécier. Il rentre presque en totale symbiose avec cet environnement qui lui rappelle certains de ses écrits. Il pleure de joie, de soulagement. Oh, il se sait mourant. Il se sait appelé prochainement par Dieu et, fierté parmi les fiertés, il sera bientôt un sujet du Christ. Ses larmes évacuent les années de frustration et de rejet. Les gestes du curé le font entrer dans une immortalité que seul le christianisme, pour lui, est capable de donner. Au sommet du clocher, les gargouilles s'éveillent. Elles s'envolent, tournent autour du faubourg Saint-Antoine, montent la garde comme pour empêcher les cavaliers de l'Apocalypse de venir déranger le processus en cours. Non loin de là, Notre-Dame semble tout entière aspirée vers cette petite église. Quasimodo et Esmeralda paraissent presque le regarder, lui, l'auteur qui s'est cru impie toute sa vie durant. Frollo, le méchant du roman de Victor Hugo, poursuit la belle gitane qui, depuis le sommet des Tournors, a les yeux fixés sur Wilde. Oscar devient l'un des sujets du Christ. Enfin, le dernier amen résonne dans le cœur fissuré de l'église et les portes du paradis s'ouvrent sous les pieds de l'auteur. Il lève enfin les yeux, plante son regard soulagé et profond dans les yeux de ses deux amis. Ils pleurent, eux aussi. La tristesse les assaille. On ne perçoit jamais sa démesure avant d'en être la victime. l'esprit obscurci par la fièvre et les douleurs qui s'installent chaque instant un peu plus, Wilde découvre avec surprise que les bancs de l'édifice sont pleins. Une multitude de personnes est en train de l'applaudir. Oh, il les connaît, tous. Au premier rang, Dorian Gray, mystique, l'air grave, le regarde avec insistance. Un léger sourire en coin, il semble apprécier ce moment. À ses côtés, Sibyl Vane, Lady Augusta Bracknell, Lord Henry Wilton, Basil Hallward, tous sont présents, tous le regardent avec émotion et approuvent son geste. Comme une ultime consécration, Oscar Wilde observe tous les personnages de sa création sortir de son esprit et se matérialiser au contact du Christ. Il a fait le bon choix. Maintenant, il le sait. Au début du XXe siècle, les adultes convertis entraient dans la religion grâce à une coupe de champagne. Celle de Wilde, sale, à peine remplie, est presque une relique des temps anciens. Oscar remercie le curé, qui la double du regard, puis puissant dans la chute, conquérant dans l'agonie, il se retourne vers ses deux amis qui, eux, bien entendu, ne voient pas les personnages de fiction qui se trouvent derrière eux. Levant sa coupe, dans un dernier geste d'esthétisme et de grandeur, l'auteur s'exclame « Je meurs comme j'ai vécu, largement au-dessus de mes moyens. » Il ne croyait pas si bien dire. De s'attarder sur sa chute vertigineuse, nous devons nous pencher sur la genèse d'Oscar Wilde. Notre histoire commence le 29 mai 1884. Nous sommes à Londres, en fin de matinée. Le quartier de Paddington est en effervescence avec en son centre l'église Saint James. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Autour de l'édifice religieux, des parterres de fleurs pleines de vie donnent aux alentours un air de fête. La terre fertile d'Angleterre a été particulièrement généreuse cette année. Les nombreux espaces verts de cette ville au cœur de la révolution industrielle résistent à la pression des hommes. Sur les pavés résonnent les sabots des chevaux tirant des calèches en tout genre. Ici, un pur sang anglais brun comme les noisettes est fièrement à la tête d'une petite berline. Là, un fringant ardennais en provenance directe de Belgique est l'attraction d'une voiture décapotable. Les cochers jouant du fouet et arguant les imprudents qui traversent jettent leurs mégots sur la route et se saluent. Le poumon londonien vit, respire, s'amuse et crie. Et l'église Saint-James, comme c'est le cas lors de chaque printemps, est au cœur de toutes les attentions. Deux jeunes gens se marient aujourd'hui, et non des moindres. L'un d'eux s'appelle Oscar Wilde, et son épouse Constance Lloyd. Journaliste, militante féministe, poétesse, écrivaine et rédactrice de contes pour enfants. Elle aime Oscar fabuleusement. Ils se sont rencontrés l'année précédente, à la fin du mois de novembre 1883. La jeune femme est la fille d'un homme très proche du cercle royal. Famille puissante donc, qui attire l'œil d'un jeune poète en pleine ascension. Un thé dominical le 26 novembre décante les choses. Les deux jeunes gens ne vont plus se quitter. Oscar a 29 ans, Constance 25. Descendant d'une magnifique calèche tirée par quatre chevaux noirs comme le jet, les deux jeunes gens s'avancent vers le perron de l'église, tapissé de fleurs blanches pour l'occasion. Le début d'un mariage célébré en grande pompe. Elle tombe plutôt bien, cette union pour Oscar. Des rumeurs commencent à bruisser sur sa sexualité. Et vous imaginez bien que l'homosexualité est à l'époque un crime absolu, puni de peines terribles. Fraîchement diplômé de la prestigieuse université d'Oxford, le natif de Dublin connaît ses premiers succès à la fin de la décennie 1870. Pour cet apprenti artiste des plus ambitieux, la capitale londonienne est une rampe de lancement qui lui semble tout indiquée. Oscar s'installe dans le quartier de Chelsea grâce à sa part d'héritage reçue à la mort de son père. Il commence tout doucement à devenir ce dandy dont on remarque la présence. Fréquentant théâtre et salon mondain, il se destine à une carrière de critique d'art. Mais c'est la publication d'un premier recueil de poèmes composés de nombreux inédits qui lui donne une première notoriété publique. Nous sommes alors en 1881. Les premiers 750 exemplaires sont écoulés en un temps record. Une deuxième édition est donc lancée et le jeune homme va profiter de son cercle d'influence pour gagner encore et toujours en popularité. En attendant, 3 ans plus tard, le mariage d'Oscar Wilde est imminent. Sa future femme, superbe, s'avance dans le cœur. Saint James est une église très réputée dans la capitale. C'est le centre d'une des congrégations les plus en vue des Anglicans. La grande Sarah Bernard est là, au 4e rang. De nombreuses autres personnalités aussi. Des officiers de l'armée, dans leur uniforme rouge clinquant, font claquer leurs bottes au sol, au passage des stars de cette journée. L'édifice du XVIIe siècle est magnifique, tout comme l'est l'ascension des amoureux en passe de concrétiser leur amour. Au sol, un parfait carrelage noir et blanc et la caisse de résonance rêvée pour les chaussures et les cannes lors de chaque contact. Des bancs, espacés et confortables, en ébène, prennent la lumière de l'autel et semblent refléter la grâce divine sur Oscar et Constance. Lui est vêtu d'un 3 pièces gris et porte une canne de dandy à son côté droit. Nulle boiterie, mais un sens du style déjà à l'avant-garde, à la pointe. Elle, tout de blanc vêtue, un châle le long des épaules, le regarde tendrement. La cérémonie se déroule à merveille. Les vitraux et les piliers de la nef offrent aux spectateurs un sentiment de plénitude et annoncent pour le couple un bonheur sans tache, sans entrave. Le chœur chantant des cantiques ajoute à l'atmosphère une impression d'irréel. Les jeunes gens se disent oui. Les invités exultent. La famille de la mariée, comme un seul homme, les félicite et verse des larmes de joie. Oscar, déjà empli d'envie, de grandeur, lève la main vers la foule, sa chevalière au majeur gauche. À la sortie de Saint James, la foule qui s'est pressée bénit de cris et de clameurs amicales les mariés. La providence les frappe du regard. L'ascension fulgurante ne peut être qu'incroyable pour eux. Et c'est la fin des rumeurs entourant Oscar Wilde pour un temps. Avant sa rencontre avec sa femme, il est parti avec ses amis en tournée en Amérique du Nord. Son style chatoyant en inspire certains qui iront jusqu'à créer des personnages de pièces de théâtre lui ressemblant. Il décide de l'emmener pour une tournée aux États-Unis afin qu'il puisse présenter des conférences sur l'esthétisme anglais. Le succès est absolument incroyable. Sa position en Angleterre en ressort grandie à l'époque, de manière considérable. Sa pensée, elle, s'affirme en retour. Ses lectures de Maurice à Baudelaire vont inspirer ses publications à venir. Lorsque la tournée se termine, la petite troupe retourne en Angleterre. Morale d'Oscar n'est pas au zénith, alors même que sa situation le permettrait. Son retour en terre britannique ne l'enchante guère. Elle décide alors, pour quelque temps, de partir en France. Paris l'attend. La capitale des Lumières va être pour lui une véritable révélation. Nous sommes alors en février 1883, 9 mois, avant sa rencontre avec sa future femme. Oscar Wilde va y rester jusqu'à la mi-mai de la même année. La fin de l'hiver, particulièrement rude, débouche sur un printemps tantôt brumeux, tantôt plein de soleil. Cette ambivalence manifeste sera pour lui un incroyable trésor d'inspiration. Paris a déjà marqué l'adolescence du jeune homme. Les revenus qu'il a touchés aux États-Unis lui permettent de vivre confortablement sa deuxième expérience parisienne. Il y rencontre assez vite dans un restaurant du cœur de la ville à la mode un jeune poète du nom de Robert Sherard. Ce nom ne vous dit certainement rien. Mais il est à l'époque l'une des personnalités littéraires qui compte. Grâce à lui, Un soir d'orage, à la sortie de l'hiver, Oscar est reçu chez l'un de ses illustres contemporains, Victor Hugo. Son style d'écriture change, il devient moins extravagant. D'un point de vue vestimentaire et capillaire aussi, ce sont les grands changements. Ses costumes, dignes des tenues militaires des Murat et autres grands extravertis de l'histoire, sont remisés au placard. Attention, toujours aussi soigné l'écrivain. Disons simplement qu'il est plus sobre, moins voyant. Les fourrures blanches d'Hermine sont remplacées par des noires. Les costumes violets par des gris ou des sombres. Ses cheveux, noirs et longs, qui lui tombaient aux épaules, sont aussi les victimes de ce changement. Tout ce qui lui valait des caricatures sarcastiques dans la presse de Londres disparaît. Le voilà un nouvel homme, doté d'une coupe à la Néron très classique, mais toujours aussi soigné. Avant son départ, il croise d'autres grands noms des domaines artistiques de son temps. Le jeune Marcel Proust, seulement âgé de 12 ans, croise sa route à ce moment-là. Tout comme Maurice Rollina ou les peintres Pissarro ou Degas. Sur le plan personnel, c'est aussi le temps des premières rumeurs. On voit Oscar traîner dans des salons à caractère homosexuel. Les mondains commencent à chuchoter, de Paris à Londres, qu'il aurait des amants parmi les hommes prestigieux de la haute société française. L'époque est particulièrement hostile à ce que l'on considère comme des comportements sexuels déviants. Les sanctions sont très excluantes, notamment pour les jeunes gens en quête d'ambition. Wilde n'a pas le choix. Il va devoir se trouver une femme, se marier et jouer au parfait hétérosexuel. Deux enfants vont naître de son mariage avec Constance. Il endosse le manteau du parfait père de famille. Cependant, il ne peut pas aller éternellement contre sa vraie nature. En souffrance, ses écrits font ressentir ce mal-être présent et constant. Et sa popularité explose. Voilà l'ambivalence de ce destin hors norme. Riche, glorieux, mais à la souffrance omniprésente. Les écrits de Wilde, eux, vont entrer dans la légende. Wilde est homosexuel. Et face au dictat de la société londonienne de l'époque, il est contraint de réprimer ses sentiments. Nous sommes au début du mois d'avril 1891. À bord d'une berline tirée par deux chevaux appartenant à son beau-père, Oscar Wilde longe Buckingham Palace. Ôtant son chapeau comme le veut la coutume, il regarde distraitement la garde royale qui opère sa relève habituelle. Sa montre a goussé en main, il remarque qu'il est en retard. 16 heures. Il devrait déjà être arrivé là où on l'attend. La tour de Londres, c'est là sa destination. Cette tour qui fut la prison d'Anne Boleyn, et de tant d'autres personnages célèbres, ou non d'ailleurs. À proximité de cet endroit iconique du monde occidental habite un marquis, le marquis Queensberry. Ils sont de la même génération. À la lecture des poèmes d'Oscar, l'aristocrate a sollicité une rencontre, une audience permettant d'affirmer sa culture, avait-il dit dans son courrier cacheté. Intrigué, l'écrivain a accepté. Il est au sommet de sa gloire. Depuis près d'un an est sorti le portrait de Dorian Gray. Un véritable chef-d'œuvre, pour lui du moins. La première version de juin 1890, sortie simultanément en Angleterre et aux États-Unis, lui a valu un flot d'admirateurs, d'acerbes critiques aussi. Cependant, tous, y compris ses détracteurs, s'accordent sur un point. L'écrivain a un talent certain, naturel, pour l'écriture. Il est intelligent. Cela ne fait aucun doute. Il a du style, un côté artistique absolument inné. Personne ne le nie. Mais ce roman porte gravement atteinte à une morale publique puritaine qui ne supporte pas ceux qui sortent des clous. Le personnage de Dorian Gray est un magnifique jeune homme qui se laisse tenter par la satisfaction d'être peint par un ami. Devant le résultat splendide de cette œuvre singulière, Dorian pactise avec le diable. Si c'était moi qui toujours devais rester jeune. Et si cette peinture pouvait vieillir. Pour cela, je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais. Mon âme, même. Dorian en devient jaloux maladif. Côtoie un lord qui l'incite au jeunisme, à la vanité. Le rêve qu'il a formulé se réalise. Il conserve sa beauté. Son apparence ne change pas. A contrario, le tableau, lui, vieillit progressivement. Mais Dorian Gray devient fou. Il provoque la mort de sa future épouse et commet des crimes en tout genre. Il va même jusqu'à tuer le peintre du tableau de peur que quelqu'un ne perce son incroyable secret. À chaque mauvaise action, la toile se transforme, laissant apparaître un être abject, diabolique, immonde. Vivant dans la tourmente, aspiré par la folie, Dorian Gray finit par poignarder le tableau. Retournement de situation alors. Il meurt sous les traits d'un personnage cauchemardesque. La toile, elle, retrouve son aspect d'origine. Ce livre a l'effet d'une bombe, puisqu'il touche à la morale publique de la bonne société londonienne. Travestissant la nature avec un monstre pour héros et travestissant la morale, puisque consciemment, Wilde établit des circonstances atténuantes à la vie dissolue de ce héros. Loin de calmer les choses, l'auteur justifie ses positions arguant de l'indépendance de l'art vis-à-vis de la morale. C'est donc un écrivain au sommet de la gloire, au cœur des débats dans la presse, qui se présente au domicile du marquis Queensberry. De noir vêtu.